proposée par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché.
Nous sommes à 2600 euros, une fois.
Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Commissaire-priseur, clerc, galeriste, marchande, conseil, transporteuse, experte, quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes?
2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
Adjugé 2006, monsieur.
C'était très sympa, ouais. Je crois que c'était la dernière, effectivement, soirée comme ça, sans couvre-feu, sans...
J'ai bon espoir que ça reprenne et qu'on ne remette pas les masques. Moi, je suis hyper optimiste.
Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce 7e épisode d'Elles font le marché, un épisode qui commence avec le soleil, puisque nous sommes sur une péniche parisienne. Peux-tu nous en dire plus sur ce qu'il se passe ici, Céline ?
Oui Julie, nous sommes à côté du Pont des Invalides, dans un cadre magnifique pour fêter le déconfinement des soirées des femmes du marché de l'art. Enfin, puisque cela fait plusieurs mois qu'on avait pu organiser un tel événement convivial. J'ai donc invité plusieurs membres du Business Club à venir ici pour se retrouver et partager leur expérience de cette année si spéciale. Certaines des femmes présentes ont d'ailleurs déjà participé à notre podcast.
En parlant de déconfinement sous le soleil, ce sont aussi les jeunes, les étudiants, qui apprécient particulièrement cette période, encore plus que nous peut-être. Et pour cet épisode estival qui coïncide avec la fin des cursus et l'approche des grandes vacances, je suis justement partie à la rencontre d'étudiantes qui se destinent au métier du marché de l'art. J'ai parlé avec Héloïse, Camille, Milena, Marina et Constance, 5 jeunes femmes qui sont en niveau master ou tout juste diplômées et qui ont déjà une idée assez précise du chemin professionnel qu'elles souhaitent entreprendre post-études.
En effet, ces témoignages reflètent la diversité des cursus qui existent aujourd'hui. Il nous a semblé nécessaire de dresser un petit panorama des formations. Il faut rappeler que la thématique de cet épisode est née d'un constat que nous avons fait ensemble. Depuis une dizaine d'années, il y a une explosion des formations hybrides qui préparent au métier du marché de l'art. Que ce soit au sein des universités ou au sein des écoles privées spécialisées, comment s'orienter? Que choisir? La fac ou une école privée? Faut-il faire la même formation pour devenir commissaire-priseur, experte, galeriste ou marchande?
Alors pour nous éclairer sur ce panorama des formations, j'ai discuté avec 2 femmes qui sont en charge de ces cursus. L'une à l'université, l'autre au sein d'une école privée. La première, Sabine Berger, est maître de conférence à la Sorbonne Université et co-responsable pédagogique de la double licence Histoire de l'art droit, coordonnée par Sorbonne Université et Paris 2 Assas, et du master 2 professionnel droit du marché et du patrimoine artistique à Paris 2 Assas. La seconde, Cynthia Cervantes, est spécialiste du management culturel, responsable du département international à l'IESA, l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art, à savoir responsable du parcours bachelor et MBA intégralement dispensé en anglais.
À travers leur expérience et leur analyse, on perçoit une évolution du secteur du marché de l'art, beaucoup plus décloisonné qu'avant, avec aussi une plus grande spécialisation des formations, car les acteurs du marché recherchent aujourd'hui des compétences spécifiques et même parfois des profils nouveaux, en particulier dans le domaine de la digitalisation ou de la curation d'expositions. Il n'y a encore pas si longtemps, le marché de l'art, secteur fermé et secret, ne s'apprenait pas. Il fallait être du sérail ou y entrer par opportunité. Aujourd'hui, tout jeune qui rêve de ce milieu artistique devrait avoir sa chance.
Et si une chose n'a pas changé, ce sont les femmes qui sont toujours les plus nombreuses sur les bancs de l'école, au sein justement de ces formations, en très grande majorité d'ailleurs. Par contre, elles sont beaucoup moins minoritaires à des postes clés sur le marché du travail. La féminisation est très nette. Au fait, Céline, tu avais fait quoi comme étude, toi ?
J'ai fait une licence d'histoire de l'art à l'université François Rabelais de Tours, puis un master professionnel histoire de l'art, conservation et médiation à l'université Montaigne-Bordeaux, puis une licence droit à l'université Montesquieu, toujours à Bordeaux. Et toi, Julie ?
Eh bien, Céline, j'ai justement fait la double licence droit, histoire de l'art et archéologie à Paris 1. Elle venait d'être créée, la pionnière des formations en marché de l'art, en quelque sorte. Et puis, un petit passage par l'année de muséologie de l'école du Louvre et, en fin de compte, un master de recherche en histoire de l'art. Et aujourd'hui, je suis journaliste, alors comme quoi, ça mène à tout. Allez, assez parlé de moi, non ? C'est parti, Céline, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce 7e épisode.
Je m'appelle Marina Bessière, j'ai 23 ans. J'ai terminé mon master 2 en droit du marché de l'art à Assas en 2020 et je me prépare à la profession d'avocat.
Je m'appelle Héloïse de Bauduz, donc je suis actuellement en master 2 marché de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'y ai effectué tout mon parcours universitaire, donc en commençant par la double licence en droit et histoire de l'art et en poursuivant avec le master 1 en droit de la propriété intellectuelle. Depuis mes 12 ans, j'ai envie d'être commissaire-priseur. Et donc là, j'ai toujours ce projet-là en tête et je suis actuellement en pleine préparation du concours de l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur.
Je m'appelle Constance Rétivaud, je suis élève en deuxième année de la formation de commissaire-priseur. Et je suis en stage actuellement à Paris, dans une maison de vente qui s'appelle Art Valorem. Voilà, moi j'ai eu l'examen d'entrée en 2019. Avant ça, j'avais commencé mes études après le bac en faisant une licence de droit parce que je savais déjà que je voulais être commissaire-priseur. Et ensuite, je suis arrivée à Paris où j'ai intégré l'école du Louvre pour 3 ans, j'ai fait le premier cycle. Et puis, je suis repartie en droit parce que je ne me sentais pas de passer tout de suite l'examen d'entrée à la formation de commissaire-priseur. Et j'ai fait le Master 1 à Paris 1, un Master 1 droit des affaires, parcours histoire de l'art.
Je m'appelle Milena Estrada. Je suis actuellement étudiante à l'IESA dans le parcours de MBA, Sales, Display and Collecting. C'est la partie internationale qui est centrée sur le marché de l'art. J'envisage devenir curatrice et avoir une résidence artiste dans l'avenir. Voilà.
Je m'appelle Camille Dussoulier, je suis étudiante à l'IESA en MBA Art Contemporain, Sales, Display and Collecting. Et dans l'avenir, j'aimerais travailler dans une galerie d'art contemporain à Paris.
Le marché de l'art a le vent en poupe au sein des cursus universitaires et chacun se targue d'une spécialisation et de bons chiffres en termes de débouchés. Selon le classement 2021 de l'Agence de notation internationale et d'Universal, qui fait référence dans le classement des formations en master et MBA, le master 2 marché de l'art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne se classe en 4e position au niveau mondial, après HEC Montréal, l'Université de New York et l'Université Lomonosov de Moscou. Et il est en tête en France devant le MBA Marché international de l'art de l'ICAR, suivi du Master 2 Droit et fiscalité du marché de l'art de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et du Master of Science Arts and Cultural Management de Paris Business School. Les écoles EAC et IESA prennent respectivement la 5e et la 6e place, tandis que le Master 2 de Panthéon Assas se classe à la 8e place. Aujourd'hui, une pluralité de formations existe, et l'on entend parler de marché de l'art, de business de l'art, de management culturel, d'expertise, de collecting, de droit de l'art, autant de disciplines et de termes qui peuvent facilement perdre le néophyte. Autant dire que le secteur éducatif dans le domaine devient de plus en plus concurrentiel, tant et si bien qu'il se crée de nouvelles formations diplômantes, telles que le Master 2 Expertise et Marché de l'Art monté il y a 2 ans à Sorbonne Université, qui enseigne entre autres le droit et l'économie appliquées à l'art, le marketing de l'art, l'expertise et les sciences et technologies appliquées à l'art. Encore plus récent, vient d'être créé un DU Profession du Marché de l'Art à l'Université Lyon 3, pensé donc comme un complément au Master 2 Droit et Fiscalité du Marché de l'Art qui existe lui déjà depuis plusieurs années. Ces derniers exemples amènent à comprendre que l'augmentation des offres répond à une augmentation du nombre d'étudiants qui souhaitent intégrer ces cursus, comme me l'explique Sabine Berger, co-responsable du double cursus Histoire de l'art droit de Sorbonne Université et Panthéon-Assas, qui mène au Master 2 Droit du marché de l'art et du patrimoine artistique.
Il y a des formations qui continuent de se créer parce que finalement, on s'aperçoit, surtout quand on a des étudiants en histoire de l'art et archéologie, qu'on fait un petit sondage concernant les motivations des uns et des autres, les choix professionnels, les objectifs professionnels à moyen ou à long terme, qu'énormément d'étudiants ont envie de travailler dans le secteur du marché de l'art. On a un public étudiant qui a une forte envie de travailler, alors généralement en galerie d'art, aussi des étudiants qui se destinent très tôt, hein, puisque nous avons ce type de réponse durant les entretiens d'admission en double licence au métier, par exemple, de commissaire-priseur. Ça fait partie vraiment des métiers qui font rêver en fait les jeunes et qui les motivent. Il y a également de créations récentes, il me semble que c'est la rentrée 2020, un master de gestion du patrimoine artistique privé à Dauphine. Les doubles licences les plus récentes sont celles d'Aix-Marseille et celles de Nanterre, dont l'ouverture a été prévue à la rentrée 2020. Donc, il y a de plus en plus de formations de ce type. On sait qu'il y a une diversité de professions et des professions qui sont encore à créer aussi également aujourd'hui.
Comme Sabine Berger, Cynthia Cervantes, en charge des formations internationales à l'IESA depuis 9 ans, observe une ouverture du marché de l'art, le besoin de nouvelles compétences, parce que le monde change.
On est de plus en plus spécialisé. Pourquoi? Parce qu'on sait que, par exemple, les entreprises qui sont dans une optique de RSE, ils ont besoin des gens comme nos élèves. Maintenant, en anglais, on a une nouvelle formation qui est autour du collecting, donc travailler avec le collectionneur, gérer une collection. On a aussi une formation sur l'art contemporain, mais spécialisée dans l'art digital. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment pour accompagner les galeries, pour créer les sites où on peut exposer les œuvres, vendre les œuvres en ligne. Donc, ça, c'est un de nos points forts actuellement.
Il y a combien d'élèves, là, dans cette formation?
Pour le département, 85 cette année.
Est-ce que vous savez, majoritairement, vos élèves, ils se retrouvent où dans le monde du marché de l'art? Est-ce qu'ils sont plutôt galeristes? Est-ce qu'ils sont plutôt marchands d'art? Est-ce qu'ils travaillent plutôt dans les musées?
De plus en plus, c'est du consulting, l'entrepreneuriat. Et on a aussi une autre structure qui s'appelle USA Incube, qui est un incubateur. C'est de donner encore plus de soutien pour les entrepreneurs qui veulent aller sur le marché avec un projet digital, par exemple, culturel. Donc ça, c'est une nouvelle création depuis 4 ans.
Quand on parle de curateur et de curatrice, est-ce que c'est un nouveau métier?
Pour moi, c'est pas un nouveau métier, mais c'est de plus en plus identifié comme compétence, parce qu'on a besoin des gens qui peuvent faire de la recherche, contextualiser en problématique et de créer les outils de capter un public spécifique. Et ça c'est les compétences de curateur.
Donc, il y a des débouchés.
Oui.
Plus aujourd'hui peut-être qu'il y a 5 ans ou 10 ans.
Mais en fait, il y a de plus en plus de postes sur ce métier-là et beaucoup plus d'entrepreneuriat qu'il y a 5 ans ou 10 ans.
Oui, alors le milieu, c'est vraiment ouvert. Les étudiants de première année, il y a encore quelques années, avaient du mal à trouver des stages intéressants. Et là, de plus en plus souvent, avec cette double casquette, cette double compétence en droit et en histoire de l'art, ils intéressent beaucoup. Alors, on a aussi, quand je parle de professions qui sont peut-être à créer, c'est parce que on vit des bouleversements qui ont débuté avant la pandémie, mais qui se sont accélérés avec la crise sanitaire. Il y a une digitalisation tout de même assez poussée du secteur. Et il y a sans doute des professions à créer assez souples, avec des étudiants qui pourraient bénéficier à la fois donc de compétences juridiques et artistiques, mais également numériques, ce qui est quelque chose de plus en plus attendu. Je pense à la première promotion 2014-2015 du Master 2 Droit du marché et du patrimoine artistique. Soit ont monté leur propre structure ou travaillent depuis quelques années dans le domaine qui les intéressait dès leurs années de master, la gestion du patrimoine artistique privé, le conseil en investissement artistique. De nombreux étudiants et surtout étudiantes, hein, c'est à peu près 80% de ceux ou celles qui se destinent à intégrer le métier de commissaire-priseur qui réussissent l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur et qu'on va retrouver ensuite sur les listes des admis avec plaisir.
Il y a les pionnières comme la formation de Paris 1 apparue dès le début des années 2000 et les réputées et classiques comme le second cycle de l'école du Louvre spécialité marché de l'art. Mais ces enseignements sont souvent lourds en termes de contenu et d'horaire. La double licence, sur le papier, cela peut aussi faire un peu peur au début lorsqu'on a tout juste 18 ans, comme en témoigne Marina Bessière.
Donc c'est vrai que moi, avant de commencer la double licence, c'était encore assez nouveau et j'avais beaucoup de mal à trouver des témoignages là-dessus. Donc j'étais très inquiète parce que beaucoup me disaient « mais tu te rends compte, double licence, ça va être comme la prépa, tu vas cravacher, tu vas avoir des mauvaises notes, le droit en plus c'est dur, donc couplé à l'histoire de l'art dans une bonne fac, enfin j'avais vraiment peur. » Et d'ailleurs ma première année, ça s'est ressenti parce que j'avais plus peur de travailler et des notes que... Enfin j'étais pas détendue, tu vois, j'étais pas vraiment libre. J'ai mis un an à trouver mon rythme de travail parce que j'aurais aimé qu'on me rassure en fait. Je pense pas que j'aurais pu faire du droit seule. Le fait de l'avoir allié à l'histoire de l'art, c'était vraiment ce qu'il me fallait.
Pour le Master 2 de Panthéon à Sas, 75% des élèves se destinent au marché de l'art, 20% à la protection du patrimoine culturel et 5% à la profession d'avocat. C'est d'ailleurs le cas de Marina.
J'ai intégré ce Master 2 à la suite d'un double parcours en droit et en histoire de l'art. Donc j'ai fait une double licence et un double Master 1. Et le Master 2, en fait, depuis la première année, je savais que je voulais faire ce Master-là, je l'avais repéré, parce que c'était la première année où enfin je pouvais étudier le droit de l'art. Donc le Master 2, on avait plusieurs matières qui abordaient le marché de l'art, que ce soit le droit fiscal, le droit de la propriété intellectuelle, on avait des cours d'histoire de l'art aussi, et puis on avait beaucoup d'experts qui intervenaient pour nous expliquer comment repérer un faux, par exemple. Bah, j'ai grandi dans un environnement artistique parce que ma mère est artiste peintre et depuis que je suis en troisième seconde, mes parents organisent des expositions un petit peu partout en France à partir d'artistes français ou étrangers qu'ils exposent. Et donc j'ai baigné dedans assez tôt et j'ai fait mon TPE en première sur le marché de l'art parce que j'avais déjà en tête de faire la double licence et donc je savais que ce serait un atout pour moi de montrer que j'avais déjà un... Donc j'avais construit mon parcours très très tôt finalement. Quand j'étais en troisième année de licence, mes parents ont ouvert une galerie d'art à Chatou, sur l'île des impressionnistes. Donc en parallèle de mes études, très souvent le week-end, j'étais à la galerie. Et donc pour faire des rencontres, pour se faire connaître un petit peu dans le milieu, c'est pas un très grand monde, c'est pas un très grand milieu, donc ça me plaît beaucoup. Là, pour le moment, je préférais faire mes armes, en quelque sorte, dans des institutions du marché de l'art. Qu'elle soit juridique, culturelle, muséale.
Il y a un concours d'avocat, oui. Donc là tu le prépares, comment ça se passe?
Voilà, je vais commencer à le préparer cet été. C'est une préparation intensive pendant 2 mois et ensuite l'examen se passe en septembre. Un été chargé qui se profile, exactement.
Comme Marina, Héloïse de Baudus et Constance Rétivo ont choisi la fac, mais toutes les deux avec le rêve de devenir commissaire-priseur. Chacune est aussi investie dans des associations étudiantes, l'association du Master 2 Marché de l'Art de Paris 1 pour Héloïse et l'association des élèves commissaires-priseurs pour Constance. C'est aussi par ce biais que se constitue très tôt le réseau, particulièrement précieux dans ces métiers. Héloïse de Baudus.
Alors justement, cette année, on est content puisque le Covid n'a pas vraiment entravé les projets qu'on avait. Donc c'est une association qui s'appelle l'AMA, donc Association Master 2 Marché de l'Art. On a pu organiser donc pour la 5e année consécutive le prix Panthéon-Sorbonne pour l'art contemporain. Et donc on a pu réaliser l'exposition qui s'est tenue au Bastille Design Center il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce prix, c'est que c'est un prix pensé par les étudiants et pour les étudiants. Donc voilà, ça s'adresse vraiment aux étudiants en art. Mais à côté de ça, on essaie aussi de développer tout ce qui est événementiel autour du marché de l'art. On a fait pour la première année un partenariat avec l'association le CEJAR, qui dépend du Master 2 en droit des marchés et patrimoine artistique de Paris 2. Et on avait fait tout un cycle de conférences sur les biens sensibles. Donc il y a une conférence avec Emmanuel Polak et Maître Corinne Herskovitz autour des biens spoliés, une autre conférence sur la régulation du pillage de biens culturels, Et la dernière en date, c'était avec deux archéologues, dont Vincent Michel, qui tient actuellement une exposition au Louvre sur les biens pillés. Ça nous amène à côtoyer beaucoup de professionnels et aussi à côtoyer des étudiants d'autres masters. Ça ouvre vraiment les yeux sur toutes les opportunités professionnelles qui peuvent nous être offertes à l'issue d'une formation en marché de l'art. Que c'est une chance de jouer aussi avec la double casquette droit histoire de l'art, que ça ouvre vraiment tout un tas de possibilités pour l'avenir et qu'on ne se sent pas, comment dire, voué à exercer un seul métier.
Constance Rétivaux.
C'est ça qui est compliqué quand on est élève commissaire-priseur, c'est qu'on travaille, en fait, on est salarié d'une maison de vente. Et puis, moi, j'ai de la chance de terminer mon contrat fin septembre pour me laisser un mois et demi de révision avant l'examen et de bien travailler et d'y aller sereinement. Voilà. Moi, je cherchais un métier en rapport avec l'histoire quand j'étais au lycée. Et bon, c'est pas très romantique, mais je suis tombée sur une fiche de l'étudiant.fr sur le métier de commissaire-priseur. Et ça alliait l'histoire, l'art, le droit, et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis lancée, je me suis dit, bon, bah très bien, il faut faire du droit, il faut faire de l'histoire de l'art, allons-y.
Ouais, toujours aussi motivée.
Et en fait, ça s'est jamais démenti 9 ans après, ouais.
Sabine Berger et Cynthia Cervantes font le même constat. La féminisation du marché de l'art est très nette et surtout la génération actuelle des étudiantes sait très tôt et très précisément ce qu'elle veut, mais aussi ce qu'elle ne veut pas. Il s'agit d'une tendance générationnelle, beaucoup plus en lien avec les débats et mouvements qui agitent la société actuelle, sur le droit des femmes et la place des femmes dans le monde du travail. Sabine Berger.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que nos 70-75% de filles qui s'insèrent en double licence, qui poursuivent ensuite en Master 1, Master 2, ne disparaissent pas à l'issue du Master 2, qui a une insertion professionnelle qui est vraiment très bonne. Non seulement elles s'insèrent assez rapidement dans le monde du travail, mais elles trouvent quand même des postes souvent assez enviables. Et on a eu de très agréables surprises ces dernières années. On a une jeune fille qui est devenue conservatrice au sein d'une collection américaine privée prestigieuse à New York, Free Collection. Nous avons des étudiants qui ont obtenu des contrats dans certaines maisons de vente parisiennes comme Sotheby's et Christie's, mais d'autres également. Plus il y aura de femmes, de jeunes femmes qui vont travailler dans ce secteur-là, plus on va s'apercevoir non seulement bien évidemment qu'elles sont compétentes, qu'elles sont extrêmement motivées, parce qu'il y a une féminisation vraiment accrue dans ce secteur qui est sensible à différents niveaux. C'est une tendance, c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. On a un public, je dirais, qui est fort de caractère et une génération qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui sait exactement ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut par la suite. Et surtout, ce qu'elle ne veut plus voir ou entendre.
En fait, dans le cursus international, qui sont des formations en anglais au sein de l'UESA, en fait, on a à peu près 85% des femmes.
Mais effectivement, ce qu'on remarque de manière un peu sociologique, il y a moins de femmes à des postes élevés, finalement, dans la vie active, alors qu'elles sont majoritaires sur les bancs des écoles et des universités. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a encore des efforts qu'il faut faire?
Oui, je pense qu'il y a toujours des efforts à faire. On sait qu'on n'est pas égaux dans ces postes de direction. Nous faisons beaucoup de médiation autour de ce sujet. Ça fait partie de notre enseignement parce que quand on forme nos élèves, on les forme pour être manager.
Quand il y a eu tous ces mouvements MeToo et puis aujourd'hui ces mouvements qui revendiquent encore les droits des femmes dans le monde du travail, est-ce qu'il y a eu des répercussions au sein de l'école? Est-ce que vous avez vu ou ressenti des choses?
Oui, parce qu'en fait, on forme les curateurs. Ça fait déjà 4-5 ans où on a toutes ces thématiques qui sont retravaillées, recontextualisées d'un point de vue international parce que nous avons des élèves de plusieurs pays où il y a des mouvements féministes comme en Mexique ou au Pérou, dans les pays comme ça. Et ça fait partie de leur réflexion au sein de cette institution. Par exemple, le projet qui est dans la galerie actuellement, c'est un projet de Camille et de Milena autour des sujets curatoriaux qu'ils ont étudiés et qu'ils ont créés à travers un an d'études. Et ça les forme à aussi trouver leur propre voie.
Milena Estrada.
J'ai fait une licence et un master à Paris 1 en histoire de l'art, parcours contemporain. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans un magazine, puis avec un artiste, un photographe. Et je me rendais compte que j'avais des lacunes au niveau de la partie administrative, tout ce qui est production, parce que j'avais toutes les compétences pour rédiger. Mais il me manquait encore cette partie production, ce réel. Plusieurs personnes m'ont conseillé de faire une formation à l'IESA.
Camille Dussolier.
J'ai fait tout mon cursus à l'IESA. J'ai fait un bachelor commerce et expertise d'art, spécialité peinture et art graphique. Et en fait, comme je voulais être bilingue anglais, j'ai fait le MBA ensuite.
En tout cas, dans la formation, nous sommes que des femmes. Nous sommes 9. Et je vois de plus en plus de femmes, je vois de plus en plus de curatrices. J'aime bien, par exemple, la curatrice qui est en ce moment à Lafayette Anticipation, qui va faire une nouvelle exposition avec Marguerite Humeau. J'aime bien ce qu'elle elle a fait au Palais Tokyo. Il y a aussi une autre curatrice au Mexique, qui est Dorothée Dupuis, française, qui est complètement immergée dans la culture latine. Ces projets sont assez incroyables, mais de plus en plus, je vois des modèles. Et en ce moment, je pourrais citer quelques curateurs hommes, mais je préfère ce que les femmes font.
En fait, c'est assez étonnant parce qu'en rentrant à l'IESA, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que je voulais travailler dans ce milieu, par ma grand-mère qui me faisait visiter les musées quand j'étais petite.
Et plutôt de l'art contemporain et pas de l'art ancien.
En fait, c'est un choix stratégique parce que j'adore l'art ancien, mais je pense qu'il y a plus de travail dans l'art contemporain, qu'il y a plus de chances aussi pour travailler en galerie. Voilà, j'ai fait un choix.
C'est important pour toi d'entendre des voix de femmes comme ça dans des émissions, dans des podcasts qui sont dans ce milieu-là?
Je pense que c'est important, surtout pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent. Parce que quand j'ai commencé mes études il y a 5 ans, bon, c'était hier et en même temps, quand on a 23 ans, ça fait long. C'était quand même un milieu qu'on nous décrivait comme un milieu particulièrement masculin. Et j'ai l'impression que ça évolue. J'espère que des jeunes femmes qui vont écouter ça vont aussi se lancer et se dire « Ok, c'est parti ». Et je pense aussi que les femmes et les hommes sont différents et qu'une vision de l'art qui peut être apportée par une femme va être différente de celle d'un homme. Et j'aime beaucoup ce qu'on voit.
Quand tu dis « on me décrivait » ou « on nous décrivait ce milieu comme particulièrement masculin il y a 5 ans », on c'est qui?
Donc des étudiants qui avaient 2 ou 3 ans de plus que nous. Il y avait aussi quelques profs qui nous ont dit que c'était quand même un milieu assez macho.
Alors, tu m'as dit 24 dans ta promotion. Combien de femmes, à peu près
Il n'y a que 2 garçons dans notre promotion.
Héloïse de Baudus.
Notamment, de ce que je connais du métier de commissaire-priseur, il y a beaucoup de femmes. Moi, je dirais que c'est plutôt sur les mentalités qu'on remarque un vrai gap. Et notamment, en tant que jeune femme dans le marché de l'art, pour avoir fait des stages en maison de vente ou pour avoir discuté avec des amis femmes qui sont stagiaires au sein de maison de vente, on remarque que c'est un milieu qui peut rester parfois un petit peu macho. Pendant très longtemps, on n'a pas de crédibilité. Certains clients un peu plus âgés peuvent nous prendre pour les éternels stagiaires. Et donc, pour ma part, c'est plutôt ça qui me fait peur, c'est que je suis consciente que c'est un milieu où on est représenté. Mais je dirais que ce qui me fait plus peur, c'est les clients, ceux qu'on a en face de nous, qui parfois sont habitués à un marché de l'art beaucoup plus masculin.
Marina Bessière.
Par exemple, en double licence, on était beaucoup de filles. On était 3 garçons, tu vois. Il y avait 3 garçons pour 30 élèves. Et jusqu'au Master 2, il y avait 3 garçons, encore une fois. On était beaucoup de filles.
Constance Rétivo.
Alors, ce qui est intéressant dans ton stage, c'est que tu es dans une maison de vente qui est tenue par 2 femmes. Et tu es une jeune femme commissaire-priseur en devenir.
On est une toute petite équipe, elles sont 2 commissaires-priseurs. J'ai une collègue qui est également une femme et moi, en fait, on est 4 femmes. On n'a rien contre les hommes, mais de fait, ça s'est fait comme ça. Évidemment qu'elles ont à être mieux représentées, mieux visibles, parce que ça reste un métier très traditionnel, très ancré dans les traditions. Enfin, en fait, moi, je me suis toujours dit, j'ai pas des parents qui sont commissaires-priseurs, on va pas m'introduire parce que je suis l'amie de quelqu'un. Je suis une femme, donc il faut être la meilleure. Le syndrome de la bonne élève, en fait.
change beaucoup. La directrice du Louvre est une femme,
oui,
pour la première fois.
Oui.
Beaucoup de jeunes galeristes femmes créent des galeries d'art contemporain.
Oui.
Les choses changent.
Oui, ça c'est quelque chose qui est remarquable en France. Parce que ça fait 20 ans que je suis en France et j'ai vu vraiment cette transition, mais on n'a pas encore fini à travailler. Il faut qu'il y ait une prise de conscience et je crois que c'est un long processus. Et oui, je suis très contente de faire partie de cette époque, en fait.
Vous, en tant que femme, vous êtes enseignante ici, vous avez beaucoup de femmes devant vous, hein. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes femmes?
En fait, j'essaie de les aider à trouver leur vision, à comment ils veulent vivre leur vie professionnelle, d'essayer de trouver vraiment les choses clés et d'essayer de les guider à travers leur formation qu'ils reçoivent ici, mais aussi plus tard aussi de rester en contact avec ces femmes.
On a quand même chez les femmes, et c'est quelque chose qui reste malheureusement, qu'on retrouve partout, dont on parle aussi avec nos étudiantes, il y a un gros syndrome de l'imposteur qui n'arrive jamais vraiment à s'estomper. On a beaucoup d'étudiantes qui développent des compétences vraiment exceptionnelles, qui cumulent les certifications, les diplômes, les expériences à l'étranger. Et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les étudiantes se mettent davantage en valeur et aient confiance en elles. Ce n'est pas parce qu'on est fiers d'avoir réussi, qu'on apprécie son travail, qu'on en parle, qu'on est vraiment très démonstratif, qu'on est forcément imbu de soi ou voilà, parfois des qualificatifs qu'on entend hein, sur ces jeunes femmes très ambitieuses. Ce qu'on reproche en général aux femmes, ce sont des qualités qui sont encensées chez les hommes. Donc l'ambition et la confiance en soi, ce sont vraiment des notions et des valeurs qui sont à mettre en avant, à regarder d'un regard beaucoup plus positif, et surtout chez les femmes où ce syndrome de l'imposteur reste. Mais peut-être par des séances de tutorat, de mentoring, on pourra arriver à faire en sorte que ce public de jeunes femmes qui sont très intéressantes, très compétentes et confiance en elles. On a une population estudiantine, féminine, qui est beaucoup plus au courant de ses droits et qui milite dans différents secteurs pour s'insérer professionnellement, trouver leur juste place dans le monde du travail. Évidemment, le fait que les femmes développent aujourd'hui de plus en plus de réseaux de solidarité dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour nos étudiants, qui motive aussi hein, celles et ceux qui rentrent aujourd'hui dans un cursus académique tel que le nôtre. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Rassembler les femmes, rassembler des femmes qui sont bien insérées depuis 10, 15 ou 20 ans dans le milieu et des jeunes femmes qui sont en dernière année d'études ou en première année de recherche d'emploi et parler hein, de façon tout à fait décomplexée les obstacles, les motifs de réjouissance, comment gérer l'annonce de son congé maternité, enfin des choses vraiment très concrètes hein, qui sont pas des choses qu'on peut forcément dont on peut discuter avec son responsable pédagogique ou un enseignant de son cursus.
Vous venez d'écouter le 7e épisode d'Elles le marché, en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le 8e épisode s'intéressera à la cote des femmes artistes. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le 3e mercredi du mois à 19h, et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Ocha ou Google Podcast. Elles le marché, épisode 8, et donc à retrouver le mercredi 21 juillet à 19h sur Art District Radio et en podcast.